Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Il s'appelle Monsieur Badi, il conduit un 4x4 dans une banlieue de Téhéran, un jour férié, en fin d'après-midi. Il s'arrête en chemin et prend à bord des passants, un peu au hasard. Contre de l'argent, il leur demande un service. Au bout de plus d'une quinzaine de minutes, on comprend qu'il attend que l'un d'eux se munisse d'une pelle et accepte de l'enterrer après son suicide. Qui est-il? Pourquoi veut-il mourir? On ne le saura jamais. Mais on voit peu à peu ce qui va le ramener à la vie. Quel fil ténu va le tirer hors du désespoir? Par exemple, ce vieux monsieur qui trouve les mots et la poésie de lui dire « Tu es désespéré? Tu n'as jamais regardé la lune? Tu ne veux pas voir les étoiles? Tu veux fermer les yeux ?» Mais mon cher, tout ça, il faut le voir. Et puis, il y a le goût de la cerise. Pas n'importe quelle cerise, puisque ce sont des cerises iraniennes, celles de Kiarostami, en mode madeleine persane, avec ce goût de l'enfance, ce petit goût de la vie qui ôte enfin à Monsieur Badi l'envie de mourir. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, en cette fête des saints et des morts, on parle du deuil, mais surtout de ce qui, après la douleur, fait qu'ils ont retrouvé le goût de vivre. Deux histoires bouleversantes racontées par Élise Andrieux.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Marie et quand j'ai rencontré David, j'avais 22 ans. Donc c'était en 2010. Et la première fois où je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose chez lui qui m'attirait. En tout cas, j'ai senti que c'était une personne que j'avais envie de rencontrer et que j'avais envie de connaître. Et donc, dès le début, il y a eu quelque chose qui m'intriguait. Il était salarié d'une association où moi, j'étais militante, bénévole, dans le domaine de la solidarité internationale. Et donc, on s'est rencontrés juste avant une réunion du conseil d'administration à laquelle lui, il assistait en tant que nouveau salarié pour se présenter. Et donc, on s'est rencontrés dans un parc dans Paris, juste à côté du lieu où on avait cette réunion l'après-midi. Il était assis sur un banc et on s'est salué. Voilà, il y avait d'autres gens avec nous. Et sur le moment, il n'y a rien eu de plus. Voilà, il avait une présence, j'ai trouvé. C'était quelqu'un de très doux aussi. Et il était très doux avec les autres. Et ça, c'est important, la douceur. Et c'est ça qui m'a attirée chez lui. Mais bon, à ce moment-là, j'avais le projet de prendre une année sabbatique et de partir voyager au Canada. Et donc, avant de voyager, je me suis installée à Paris pendant quelques mois. Et donc, c'est à ce moment-là où on s'est un peu plus rencontrés. Et puis un jour, je lui ai déclaré mes sentiments et je suis tombée amoureuse complètement. Et puis ça s'est construit progressivement, on a vraiment pris le temps de se connaître et de prendre le temps en fait de rentrer en relation vraiment. Et la relation a été très très forte, vraie en fait. Et malgré tout, ce projet de voyage, je l'avais toujours. Et c'est pas parce qu'on s'est rencontrés que j'ai renoncé à faire ce voyage, parce que j'avais décidé que je le ferais. Et donc, je partais pour 6 mois de voyage. Donc, pour moi, ça a été quand même dur de partir, parce que j'étais très amoureuse et que ce qu'on avait vécu, c'était très fort. Et j'étais à la fois très contente de faire ce voyage et en même temps, c'était dur de se séparer. Et donc à ce moment-là, début mai 2013, je suis partie au Canada et j'avais prévu de faire du woofing, donc c'est de travailler dans des fermes biologiques en échange du gîte et du couvert. Donc je suis partie là-bas, début mai, j'ai atterri à Montréal et puis assez vite je suis partie vers le fjord du Saguenay, donc au nord du Québec. Et je suis arrivée dans une ferme où j'ai travaillé pendant 2 semaines chez des gens qui avaient une petite ferme en autosuffisance. Donc ça, c'était chouette. J'étais logée dans une cabane, peut-être à 100 mètres de leur maison. Il faisait assez froid. C'était début mai. Il faisait encore 2-3 degrés le matin. Donc je me couvrais bien dans ma petite cabane en bois. Et quand je sortais le matin, c'était beau, quoi. J'étais en pleine nature tout de suite. Et c'est à cet endroit-là que j'ai appris la mort de David. Je lui avais envoyé un mail quelques jours avant, donc j'attendais de ses nouvelles à lui. Et donc, j'avais fait une très belle balade dans la journée. On était allé sur une petite plage au bord du Saint-Laurent. Enfin voilà, j'avais vraiment passé une chouette journée et j'avais hâte de rentrer, de voir s'il avait répondu à mon mail. Et à la place, donc, j'ai reçu un mail qui m'annonçait qu'il était mort d'un arrêt cardiaque le vendredi matin, en allant avant d'aller au travail chez lui, dans sa salle de bain. Voilà, sans raison. Il avait 33 ans. Donc moi, j'en avais 25 à ce moment-là. Et en fait, je l'ai appris par des membres de l'association en ouvrant ma boîte mail. Et en fait, j'étais tellement sous le choc que je comprenais pas bien ce qui se passait, en fait. Mais bon, à ce moment-là, on est en pilote automatique. Hein, on fait ce qu'il faut faire. Donc j'ai acheté un billet d'avion qui partait 2 jours après. J'avais une boule dans la gorge, j'arrivais pas vraiment à pleurer, enfin je sais pas, je réalisais pas vraiment ce qui se passait. Et puis ben, je suis arrivée à Paris, j'ai été accueillie par les amis de l'association, j'ai rencontré ses amis à lui, ses colocs, j'ai rencontré ses parents. Et en fait, comme c'était une mort entre guillemets suspecte, parce que mourir jeune d'un coup, c'est toujours considéré comme une mort suspecte, du coup il y a eu une autopsie. Il y a un moment où on a pu aller voir son corps, qui était du coup à l'Institut médico-légal de Paris. Et voilà, et donc j'y suis allée seule. Enfin, là-bas, j'ai retrouvé sa famille, en sachant que j'allais voir le corps de mon amoureux mort. Donc je suis arrivée là-bas, et puis je suis rentrée dans cette pièce avec du carrelage, complètement impersonnel. Et voilà, il y avait son cercueil qui était au milieu, et lui dedans, et... J'étais très marquée par le fait que son corps était très froid parce que forcément, pour conserver un corps, on le met au frigo, en fait. Et du coup, quand il est présenté à la famille, bah, le corps, il est glacé. Et c'est ça, en fait, la différence entre la vie et la mort. Je l'ai senti là, c'est que le corps, quand il est vivant, il est chaud. Et quand on est mort, et en plus, quand on a été conservé au frigo, bah, on est froid. Et en fait, après, ça allait très vite. Et après, c'est ça qui est le plus violent, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, les gens des pompes funèbres, ils arrivent. Et puis, bon, bah, c'est le moment où il faut y aller. Et puis, en fait, là, ils mettent le couvercle sur son cercueil. Avec les dates inscrites dessus. Et voilà. Et je pense que là, ça a été vraiment un des moments où j'ai vraiment réalisé ce qui se passait. Parce que de voir les dates écrites, ça pouvait pas prêter à une autre interprétation, quoi. Là, c'était clair et net, 1980-2013... Une fois que le couvercle est mis, bah, il faut le visser. Donc voilà, là, il y a des mecs des pompes funèbres qui arrivent et puis qui sont avec les visseuses et puis ils referment le couvercle et puis là, bah, c'est fini, quoi. Tout à coup, j'ai senti une espèce de terreur de me rendre compte qu'il était mort. Et je sais pas, c'est arrivé d'un coup, je me suis rendu compte que je le verrais plus, qu'il serait plus là dans ma vie à venir, que j'allais pas le retrouver dans 6 mois, que j'allais pas le retrouver dans 1 an, que j'ai senti son absence et sa mort dans ma chair, quoi. En moi, il y avait un creux, enfin, il y avait un truc. C'était juste le grand vide. Et j'avais l'impression que ça allait être tellement long, toute une vie à passer sans qu'il en fasse plus partie. Et donc, bah, le deuil, après, toute cette année, ça a été des vagues de tristesse, de pleurs, qui, au début, arrivaient toutes les 2 heures. Et après, une fois que la vague était passée, j'arrivais à me ressaisir et puis à être un peu là jusqu'à la prochaine. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai pleuré tous les jours, des fois longtemps. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va bien s'arrêter. Enfin, combien de stocks de larmes on peut avoir à l'intérieur de soi? Il y a un moment où il n'y en aura plus. Enfin, c'est fou de voir que le corps peut produire tout ça, en fait. au point de pleurer plusieurs fois par jour et pendant un an. Donc c'est quand même long de pleurer tous les jours pendant un an, voire des fois plusieurs fois par jour. Et c'était une tristesse telle. C'était aussi ces moments-là où j'avais envie de creuser un trou dans le sol et d'aller me terrer quelque part, comme un animal en fait. Le chagrin à l'état pur, les larmes à l'état pur, et du coup c'est purement physique en fait. Ça sort et voilà, et moi je me disais je voudrais me terrer dans un coin, me dissoudre dans le sol quelque part, et au milieu de la nature plus ou moins, de la terre, et pouvoir là me recroqueviller sur moi-même et attendre que ça passe, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et la sensation la plus étrange, je pense, que j'ai ressentie, c'est que je me regardais dans un miroir et que je me reconnaissais pas. Enfin, je savais que c'était moi, donc je me touchais le visage, je savais bien que c'était moi, mais en fait, j'arrivais tellement pas à croire que j'étais en train de vivre ce que j'étais en train de vivre, et à comprendre que j'étais en train de vivre ça, que du coup, le reflet de moi-même, j'arrivais pas à l'associer à ce que j'étais en train de vivre. C'était très très étrange. Donc la troisième année, là, je suis revenue un peu dans le monde des vivants. Alors je pensais toujours à lui à chaque seconde. Je pleurais toujours tous les jours. J'avais du mal à être complètement présente aux autres. Mais il y avait un léger mieux. Et puis y a un moment où j'ai arrêté de pleurer tous les jours. J'avais l'impression au bout des 3 ans que voilà, je commençais à en être un peu sortie. Voilà, je recommence à faire des choses, je me suis fait des nouveaux amis. J'ai une nouvelle relation avec quelqu'un. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'était pas revenu comme avant. Donc j'étais toujours un peu perdue, en fait. Et finalement, tout ce que la relation avec David m'avait apporté, de confiance, de liberté, de puissance, je ne l'avais pas retrouvé. Et je me suis dit, bon, la seule chose où je me sens encore connectée, c'est à la nature et à l'agriculture, par l'expérience que j'avais eue au Canada. Et donc, je me suis dit, je vais refaire du woofing, je vais retravailler dans des fermes, mais en France. Donc, je suis partie faire du woofing pendant 4 mois dans le sud-ouest de la France. Et quand j'ai commencé à retravailler dans la nature et être dehors, je me suis retrouvée assez progressivement en acceptant de prendre du temps pour ressentir ce que je ressentais. Les premières fois où j'ai récolté ma première botte de radis, par exemple, ou les premiers jours de pluie aussi, quand je travaillais dehors, où finalement on continue à travailler dehors et on est bien dehors, même quand il pleut. De me lever le matin et d'entendre les oiseaux au réveil, de m'allonger dans une prairie et d'entendre en été, en juillet, le bourdonnement des insectes autour de soi, c'est toujours très fort. Et le goût de la vie, c'est toutes ces petites choses du quotidien, mais vécu pleinement, de manger ce qu'on produit. J'ai le souvenir d'avoir mangé une nectarine juste cueillie d'un arbre dans le sud, et ça dégouline, il fait chaud, enfin c'est tellement bon. Des moments de randonnée en montagne dans la brume où on entend juste le bruit des cloches des troupeaux ou des chiens qui aboient, des chiens de berger, et le bruit de ses pas en fait, parce que finalement quand on est dans la brume là c'est très silencieux. On entend des bruits au loin et on entend le bruit de ses propres pas. Et on se sent immergé dans ce bain de montagne et de brume. Et le goût de la vie, c'est de réussir à être pleinement présent pour ces petites choses et ces grandes choses, en fait. Pour moi, le goût de la vie, il est comme un matin de printemps. Il est un peu frais et piquant et il annonce des heures chaudes à venir, je pense. Il annonce un réveil. Je pense que le goût de la vie, c'est ce frais piquant qui promet la chaleur. Thank you. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment finalement réussi à intégrer dans mes cellules cette histoire d'amour. Finalement, David, maintenant, il est dans ce goût que j'ai de vivre, en fait. Il est toujours un petit peu là. Il fera toujours partie de mon monde, finalement, et de qui je suis. Et en même temps, je sais que j'ai pas besoin de lui pour vivre. Mais je sais qu'il m'apporte des choses importantes. J'aurais profondément aimé partager d'autres moments de vie avec lui. Mais en tout cas, je pense que je suis entière maintenant. Comme quand on s'est rencontrés où j'étais libre, je suis toujours libre aussi maintenant, moi-même, seule, sans lui.
Je m'appelle Louise, je suis italo-danoise et je suis une maman en deuil. Ma fille avait 13 ans et mon aîné en avait presque 15. Et puis il y a eu un été d'il y a 9 ans, nous étions dans notre maison en Provence avec une très belle piscine, il faisait très chaud, nous sommes allés nous baigner et puis surtout jouer. On a joué, on sautait sur les matelas, on était tous très très joyeux. Et à un moment donné, je pense qu'on a arrêté de sauter et Smila ne bougeait plus, elle était dans la piscine, elle flottait dans la piscine. Et je l'ai appelée et elle ne répondait pas. Alors je me suis précipitée, j'ai hurlé son prénom très très fort. Mon époux, mon fils aîné et même le dernier sont arrivés en courant. On l'a sorti de l'eau, on a essayé de comprendre ce qui se passait. On l'a réanimé, on a fait ce qu'on appelle le bouche à bouche. Entre-temps, notre enfant aîné a appelé les secours. Nous savions absolument pas ce qui se passait. Nous étions dans une incrédulité totale. Smil était là, mais elle ne réagissait pas, elle ne réagissait plus. On hurlait son prénom et on lui disait qu'il fallait qu'elle se réveille. Et puis, je ne sais plus combien de temps plus tard, les secours sont arrivés. Elle a été transportée à l'hôpital de Marseille. Et elle a été dans cet hôpital pendant une semaine, dans le coma. Et elle n'a pas survécu. Et s'est éteinte des suites de cette arythmie cardiaque, nous a-t-on dit. Nous ne savions pas du tout qu'elle souffrait d'une arythmie cardiaque. Et Smil est partie. Et avec son départ, je suis partie aussi. Ça a été une lente descente aux enfers. Dans un endroit qui est tellement sombre et tellement irrespirable. Et j'y ai passé très très longtemps. Je crois que ça se quantifie en années. Mais je restais très très seule, malgré le fait que j'étais avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis les plus proches. J'étais toujours dans ma solitude à moi. J'ai le souvenir de mon petit garçon qui avait 5 ans me dire « Mais maman, heureusement que c'est pas toi !» Et je crois que je ne souhaitais qu'une chose, c'était effectivement d'être moi morte à la place de ma fille, parce que c'est pas normal que ce soit la mère qui survit à l'enfant, c'est pas dans la loi de la nature, c'est pas juste. Et cette voix de ce petit garçon de 5 ans qui se tenait, qui s'agrippait à ma main d'ailleurs, donc il me retenait en fait, il me retenait avec sa force de petit enfant de 5 ans. Qu'est-ce que je ferais moi sans toi, maman? Donc cette voix, je l'ai entendue dans ma tête plusieurs fois, même quand je ne pouvais pas en comprendre le sens. Je crois que je le refusais. Je refusais de me sentir aussi indispensable pour quelqu'un. J'avais qu'une envie, effectivement, c'était qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse dans le noir, dans la solitude, dans la douleur. J'avais envie de ressentir la douleur et uniquement la douleur. Je crois que je ne pouvais pas supporter d'ailleurs que les médecins me proposaient des thérapies pour avoir moins mal, mais je ne pouvais pas, j'étais que un amas de douleur, je ne pouvais pas avoir moins mal, je n'étais plus moi-même si j'avais moins mal. Et ceux qui voulaient me distraire, mais je leur répondais, mais on ne peut pas distraire une mère de la perte de son enfant, ce n'est pas possible. Je ne peux plus l'embrasser, je ne peux plus lui caresser les joues, je ne peux plus lui faire des tresses dans ses cheveux blonds, je ne peux plus prendre ses mains dans les miennes, je ne peux plus la toucher et je ne peux plus la respirer et sentir son odeur. La vie continue, une phrase absurde, mais elle continue sans doute pour ceux qui prononcent la phrase, mais vous qui êtes dans cette sensation d'entre-deux. On se sent souvent sur un fil où on sait que si on bascule de l'autre côté, mais il suffit vraiment de très peu, suffit d'un souffle pour qu'on bascule de l'autre côté. Et là, on ne revient pas. L'autre côté, c'est le monde des morts, c'est le monde où il n'y a plus de vie. Je ne suis pas sûre de pouvoir dire comment passer mes journées. Je crois qu'il y a eu certaines journées qui se sont tout simplement passées au lit. Je me levais le matin, malgré moi, j'accompagnais mon fils à l'école et puis je rentrais, je me couchais à nouveau, parce que je ne pouvais même pas supporter d'être debout. J'avais besoin de dormir, de ne pas avoir d'effort à produire, puisque le simple fait de respirer était un effort, le simple fait de marcher était un effort, me nourrir était un effort. Ouvrir les yeux était un effort, tout était un effort en réalité. Pendant une très longue période, j'ai simplement vécu, mais je ne sais pas comment. Je pense qu'on frôle la folie, je sais que je l'ai touchée du doigt, je sais que j'ai eu cette sensation terrible de voir les objets autour de moi bouger, alors que j'avais l'impression que je ne bougeais plus, ma fille ne bougeait plus, elle ne vivait plus, mais les objets, tout ce qui était inanimé, était tout d'un coup pourvu de mouvement. Et ça a été l'un des moments où j'ai réalisé que j'étais très proche de la folie. Alors je sais que j'ai échangé avec une amie très chère à qui je disais, mais tu sais, j'ai l'impression que je n'ai plus de vie, je n'ai plus qu'une demi-vie. Et cette amie m'a dit, mais Louisa, dans demi-vie, il y a vie. Je crois que ça m'a bouleversée, parce que je crois que je ne me sentais pas en vie à ce moment-là. Et je crois qu'à partir de cette demi-vie que je ressentais, j'ai pu commencer à ressentir, doucement, petit à petit, quelque chose qui bougeait en moi. J'ai eu cette sensation d'avoir les vannes de mon corps qui s'ouvraient à la vie, avec une sensation que la vie me reprenait et que je venais de très très loin. J'étais partie vraiment aussi loin que cela soit possible. Et je crois qu'à un moment donné, le côté peut-être... L'attachement très fort à la vie a dû peut-être me ramener et me faire sentir que j'avais moi aussi droit à cette vie et que malgré la douleur, malgré le chagrin, tout cela n'allait pas passer, mais j'allais continuer à vivre, que je souhaitais continuer à vivre. Et il y a un épisode extraordinaire que je n'oublierai jamais où, avec mon fils cadet, nous nous sommes retrouvés autour d'un jeu improvisé et nous avons ri Mon garçon Stelio avait 7 ou 8 ans et il avait pas vu sa maman rire depuis très longtemps, je pense. Il l'avait surtout vu pleurer, mais là je rigolais et lui il rigolait avec moi, et plus il rigolait, plus je riais, plus il rigolait. Vraiment, je pense que nous étions plus grands tous les deux. Nous avions augmenté en volume par le rire, je peux pas vous dire, je crois qu'on était effectivement remplis de cette joie. Et nous rions tellement, je sentais mon cœur bouger, je sentais le muscle cœur qui pulsait en moi, et je sentais une chaleur, une joie. Ah là, j'ai senti que j'étais en vie. J'ai senti que je vivais, et j'ai senti que c'était beau vivre, puisque cette sensation physique était extraordinaire, vraiment. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'aime profondément et que j'aime profondément. Et je sais que quand il m'entend rire, je vois qu'il est heureux. Je pense qu'on peut dire qu'on s'aime encore plus aujourd'hui qu'avant. L'amour pour mon mari, bien entendu, mais pour mes enfants. L'amour pour la nature, l'amour pour les animaux. Je le sens en moi, je le sens très fortement. Cet amour, je pense que je le ressentais avant, mais je crois qu'il a été enseveli pendant si longtemps. Heureusement, pas enseveli pour toujours. Je pense que c'est l'instinct de survie en moi. Je ne sais pas exactement ce qui a fait que. Je crois que c'est quelque chose de plus fort que moi. Ça doit être quelque chose en moi de très ancré. Ça doit être la vie.
C'était Après le deuil, retrouver le goût de la vie. Reportage Élise Andrieux, réalisation Emmanuel Geoffroy. Merci à Marie, à Louisa, à l'association Apprivoiser l'absence, ainsi qu'à Pierre, le webmaster, et à toutes les personnes qui ont parlé à Élise. Attachée de production, Jeanne Copé, stagiaire, Solène Vanek-Kobach.